Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce lieu. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Parce que ce soir, j'aimerais faire avec vous un petit voyage. Vous aimez voyager? Un voyage dans le temps. Vous y croyez ça? Une machine à voyager dans le temps. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Au chapitre 8, verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur, Amen. » On arrête là notre lecture. « Non, Seigneur. » On a fait une lecture un peu longue, alors je voudrais vraiment mettre le contexte. On a vu au début le verset 37 du chapitre 7, Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, qui se tient debout et qui commence à s'écrier d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et beaucoup de personnes, comme moi, lisent ce texte et puis on passe dessus. On ne sait pas du tout de quelle fête il est parlé. On ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé, pourquoi Jésus fait ça, etc. Et j'aimerais un peu détailler ça avec vous et pouvoir profiter avec vous de ce que j'ai découvert en cherchant et en fouillant un petit peu. Vous savez, on lit beaucoup de choses dans la Bible et on passe à côté de grands trésors. Et j'ai remarqué que la fête dont il est parlé à ce moment-là dans la Bible, quand on étudie un peu plus les textes, on remarque que c'est une fête qui s'appelle la fête des tentes. Et encore aujourd'hui, en Israël, cette fête est appelée la fête des cabanes. Et c'était une fête que Dieu avait instituée, par exemple, il en parle dans Lévitique chapitre 23, verset 42, où il dit voilà, à telle époque de l'année, le 7e mois, le 15e jour, et pendant une semaine, tout le peuple habitera dans des tentes. Pourquoi Dieu a cette idée farfelue? À premier abord, on peut se dire, mais pourquoi Dieu dit aux gens, à son peuple, d'habiter dans des tentes? On ne comprend pas. Et en fait, il institue cette fête après la récolte pour rappeler que pendant toute la traversée du désert, pendant 40 ans, Dieu a été fidèle. Il ne pouvait pas vivre dans une maison faite de dur, une maison faite en pierre, en briques. Ils habitaient dans des tentes et il a dit vous ferez une fête d'une semaine et pendant cette fête, vous vous rappellerez combien Dieu a été fidèle et bon, vous a gardé en plein désert, il vous a donné du pain, il vous a donné de la viande et il vous a donné de l'eau. Toutes ces choses. Il a été fidèle, il vous a gardé. Dans le désert, il y a des bêtes sauvages. Il y avait même des serpents. Mais Dieu a gardé, Dieu a guéri des morsures des serpents. Dieu a fait toutes sortes de choses. Quand on lit un peu la Genèse, l'Exode, toutes ces choses, on voit que dès le départ, dès la création de la terre, Dieu a été fidèle en chaque chose. Il a pris soin de l'homme et de ceux qui se tournaient vers lui, entre autres du peuple d'Israël, qui était esclave pendant 400 ans en Égypte et que Dieu a fait sortir, a délivré d'une manière merveilleuse. Et même dans le désert, dans la traversée, Dieu a été là et il a pourvu à tous leurs besoins. Cette fête s'appelle la fête de Soukhot. Je le prononce peut-être mal, mais Soukhot, S-O-U-C-C-O-T. Soukhot, fête de Soukhot, fête des tentes. Et puis si vous alliez en Israël, vous découvririez qu'à cette époque, l'époque de cette fête, ils sont là et ils font des petites tentes sur leur balcon, dans leur jardin, dans des endroits, dans des cours. Ils font des petites tentes comme ça, avec des toits en feuilles de palmier, et ils doivent au moins passer un repas dedans. Normalement, dans la parole de Dieu, il dit qu'ils habiteront, mais eux, ils ont gardé la coutume, la tradition, et ils passent au moins un repas par jour dans cette cabane, pour rappeler que Dieu a été fidèle même quand ils n'avaient pas de maison. Peut-être quelqu'un ce soir n'a pas de maison, n'a pas de lieu où dormir. J'aimerais te dire, crois en Jésus, il sera fidèle à sa parole, il prendra soin de toi. Et puis cette fête, elle était là, ça faisait une semaine, ça faisait déjà 6 jours, et le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, il se tient debout, il commence à crier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais Jésus n'a pas fait ça par hasard, il n'a pas dit cette phrase par hasard. Parce qu'il nous a dit que le dernier jour, et si vous alliez en Israël, ça serait pareil, le dernier jour, tous les gens vont au bassin de Siloé. Et ils vont puiser de l'eau, et ils rapportent l'eau jusqu'à l'Holocauste avant quand il y avait le temple. Et ils versaient cette eau devant l'autel. Tout ça, ils versaient ça devant Dieu. Parce que dans le désert, à un moment, bien sûr, comme dans tout désert, ils ont manqué d'eau. Et ils ont eu soif. Et Jésus a miraculeusement répondu à leurs besoins. Et ce grand jour de la fête, le dernier jour, c'est la commémoration des eaux jaillissantes. Ils appellent ça comme ça. Commémoration des eaux jaillissantes. Alors j'imagine bien tous ces gens-là comme ça, je vous ai dit qu'on voyageait, faites-vous l'image dans votre tête, tous ces gens qui sont autour là, ils sont allés à Siloé, ils ont pris leur eau, leur cruche comme ça, ils ramènent de l'eau et ils vont pour la verser. Et puis d'un coup, ils entendent un homme qui se met à crier, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi !» Imaginez-vous, Jésus, il a répondu au contexte. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un passe un désert, si quelqu'un manque d'eau, si quelqu'un veut la provision, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et c'était à une période aussi où les dernières récoltes venaient d'être finies, il y avait cette fête, et ce geste d'eau aussi répandu devant l'autel, c'était aussi une prière. Une supplication envers Dieu. Envoie-nous encore, comme tu l'as fait dans le désert, de l'eau pour que les futures récoltes soient bonnes. Pour que cette nouvelle année qui va commencer soit bonne. Et vous savez, moi j'ai vraiment eu ce texte à cœur sur la femme adultère. Et puis j'ai dit, il faut que tu montes un peu plus haut. Puis j'ai cherché. Puis d'un coup j'ai dit, cette fête, tu vas te renseigner. J'ai cherché sur Wikipédia. Vous savez ce que c'est Wikipédia ? Encyclopédie en ligne. Sur Internet. J'ai tapé fête des tentes, c'est tout ce que je me souvenais, fête des tentes. Et bof, j'ai regardé. Et vous savez pas quoi ? On est en plein dans la fête des tentes. Et le 7, dimanche, ce sera le dernier jour, le jour où Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Et j'ai dit « Tiens, ça tombe bien ». Ça a commencé le 30 septembre et cette année, ça finira le 7 octobre. Et pour ceux qui veulent vivre dans des tentes pendant une semaine, je vous donne les dates de l'année prochaine. C'est du 18 septembre. Au 25 septembre, comme ça vous pouvez vous préparer avec vos enfants, dire allez on va construire une cabane, mettre des feuilles de palmier, des branches de palmier. Cette année, c'est tombé du 30 septembre au 7 octobre, en plein maintenant. Imaginez-vous, il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus qui monte comme ça, qui monte peut-être sur quelque chose pour s'élever, ou en tout cas qui se tient debout et qui crie « Si quelqu'un a soif, fais haut !» Regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez. Si quelqu'un a besoin d'eau, venez vers moi, c'est moi qui vous donnerai de l'eau. Celui qui croit en moi, des eaux jailliront même de son cœur. Il parle d'une soif spirituelle. Il parle de quelque chose d'encore plus profond que ce qu'on peut connaître, la soif physique, ce qui est déjà pas mal. Est-ce qu'on a déjà vécu ce que c'est que la vraie soif, mourir de soif ? Dans notre pays, à moins d'avoir fait une randonnée et de s'être trop égaré, mais sinon, Rares sont ceux qui ont exprimé ce désir, soif physique. Mais je crois qu'il y a une soif encore plus grande, encore plus profonde, encore plus importante. C'est une soif spirituelle, un désir, un besoin viscéral dans notre corps, dans nos tripes qui est là. On a besoin de Dieu, on a besoin de quelque chose. On cherche à droite, à gauche, du plaisir, des choses dans ce monde. Mais il y a une soif, il y a un désir qui n'est pas comblé. Et un homme, un philosophe un jour va dire, l'homme a un vide à l'intérieur de lui et ce vide a la forme de Dieu. Rien ne peut combler ton cœur si ce n'est que la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cette fête où Jésus s'est levé et a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Je vous pose une question. Chacun ne répondait pas à voix haute, ça ne sert à rien. Dans votre cœur, j'aimerais te dire, de quoi as-tu soif ce soir? De quoi as-tu soif? J'ai pris quelques exemples. Soif d'amour, j'aimerais qu'on m'aime. J'ai soif d'amour, moi. Ah, on fait la fête autour de moi, on chante l'amour. J'écoute la radio, paf, ça parle d'amour. J'écoute assis, à ça, je vais sur Internet, on me propose toutes sortes d'amour, déformés quelquefois, souvent. J'aimerais te dire, viens à Jésus. Si tu as soif d'amour, viens à lui, et il va te donner un amour parfait. On pourrait prendre comme exemple cette lecture de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, où il y a un peu ce qu'on appellerait l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour, mais selon Dieu. On va le lire. Je n'ai pas beaucoup de lectures, ça sera la deuxième lecture et la dernière de la soirée. 1 Corinthiens chapitre 13. Je pense que c'est important. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est vraiment l'amour ou qui a été trahi, blessé, j'aimerais te montrer ce que c'est l'amour selon Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Et je saute au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Vous avez vu, l'amour selon Dieu, c'est un autre barème, hein? C'est d'autres critères. Et si on comparait l'amour qu'on aurait chacun dans notre vie, dans notre cœur, on pourrait dire, j'ai encore du travail pour égaler l'amour de Dieu. C'est pas vrai? Quelquefois, on réalise en lisant ça, on dit, oulala, je vais fermer, je vais prier, je vais prier pour que le Seigneur m'aide. Vous voyez, quand on se compare à l'amour de Dieu, on ne fait pas le poids. Les chevilles, si elles enflaient, elles réduisent d'un coup. Mais c'est cet amour-là que Jésus propose. Tu as besoin de paix parce que ton cœur est tourmenté. Tu t'inquiètes pour ton lendemain, pour ton travail, pour ces choses-là. C'est la crise. J'aimerais te dire, viens à Jésus. Il dit dans Jean 14, 27, « je vous donne ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. » Tu as besoin de joie? Tu as besoin de plaisir? Moi, je crois que d'avoir du plaisir, ça fait partie des choses que Dieu nous donne dans la vie. Et je ne confonds pas plaisir et bonheur. Plaisir et être heureux. Je parle du plaisir, de la joie, d'avoir des moments où on se fait plaisir, des moments où on est vraiment, on a une émotion, quelque chose qui est là. Mais je crois que tu peux avoir du plaisir dans la présence de Dieu. D'un coup, ton cœur qui déborde de joie, il y a un plaisir à se trouver devant lui parce que tu n'as plus rien à trop projet. Tu as besoin de guérison parce que ton corps est malade, parce que ton cœur est malade. Viens à Jésus. Lis l'évangile de Marc. Tu vas voir que Jésus guérit. Tu as besoin de respect parce qu'on ne t'a jamais respecté. Tu as soif de respect. Viens à Jésus. Il ne force personne. Le plus grand des gentlemen, le plus grand des médecins, le plus grand des pères, tout simplement, c'est Dieu. Et c'est par son Fils Jésus qu'on obtient ces choses. Déjà, Dieu te respecte. N'attends pas plus. Tu as besoin de ressentir ces choses, que Dieu t'aime pour qui tu es, pas pour le masque que tu as. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Et tu vas voir et découvrir toutes ces choses. Mais je crois qu'il y a un besoin encore plus grand. Il y a une soif à laquelle il faut prêter encore plus d'attention. La soif de pardon. La soif de pardon. On a vu là, quand Jésus a dit ça, il y en a qui ont cru que c'était un grand prophète. Parce qu'il y avait Élie qui devait venir. Ils n'avaient pas reconnu Jean-Baptiste. Et ils étaient là, ils croient que Jésus, c'est un grand prophète. On l'entend. Jésus, non, c'est pas le Fils de Dieu, c'est un prophète. J'aimerais dire, c'est plus qu'un prophète. L'autre qui dit, Jésus est le Christ, le Sauveur. Jésus, c'est celui vers qui il faut aller. Ils avaient raison. Mais juste à côté d'autres, ils viennent casser la foi. Casser ces choses. Ils disent, oui, mais il est écrit des choses, c'est écrit ça. Mais ils ne savaient même pas d'où venait Jésus. Ils étaient en train de dire d'où venait Jésus. Jésus est né à Bethléem, dans la ville de David. La prophétie s'est accomplie à la lettre. Seulement, il est obligé d'y aller à cause d'un recensement. Ses parents, Marie et Joseph, son père adoptif, ont dû aller à Bethléem à cause d'un recensement. Alors qu'elle était enceinte, elle s'est retrouvée au moment d'accoucher, et il fallait se faire recenser, elle est allée, et il n'y a eu qu'une étable pour accueillir Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Mais il était vraiment de Bethléem, mais il ne le savait pas. Des fois, par manque d'information, on peut louper quelque chose, et ce soir, mon devoir, c'est de vous dire que celui qui peut répondre à vos plus grandes soifs, vos plus grands besoins, c'est Jésus-Christ. Maintenant que vous le savez, regardez le plus grand des besoins, la plus grande des soifs. Quelque chose qu'on met en sommeil, quelque chose qu'on écrase avec une culture, on tue notre conscience. Mais je crois que l'un des plus grands besoins, c'est le besoin de pardon. Le besoin de pardon. Regardez cette femme, flagrant délit. Pas de bol, elle s'est faite avoir, elle s'est faite attraper. Des fois, on est passé au travers de certaines choses et elle s'est faite attraper. Flagrant délit d'adultère. Elle était en train de coucher, de flirter avec le mari de quelqu'un d'autre. Des hommes la prennent et l'amènent devant Jésus qui était en train d'enseigner. Et alors il la jette comme ça, sûrement avec un mépris pour elle, avec une accusation, avec un jugement, proclamant la sainteté de Dieu, la loi de Dieu. Et il la jette comme ça devant Jésus. Et puis ils disent, voilà Jésus, qu'est-ce que tu dis toi? Et en fait le désir, c'était pas d'honorer la vérité ou d'honorer le bon sens, la morale. Leur désir, c'était de piéger Jésus. Il y a toujours des gens qui s'élèvent contre la vérité, contre la simplicité de l'amour de Dieu. Ils sont pas contents. Ils vont chercher plus compliqué. Ou alors il y a un besoin de se justifier devant cet amour. Et puis ces hommes, ils vont commencer à vouloir piéger Jésus. Qu'est-ce que tu dis toi? Moïse, il dit qu'il faut lapider une telle femme. Et toi? Et Jésus va répondre en se baissant par terre au début. Il répond pas. Il écrit par terre. Et puis comme ils insistent, il se relève. Il leur dit, ok, que le premier qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça en est devenu un proverbe dans le monde. De partout, les gens ils connaissent ce proverbe. Mais ils ne savent même pas que ça vient de là. Que le premier qui a jamais péché lui jette la première pierre. Et puis il se remet à écrire par terre, il se rabaisse et il écrit. Et puis on voit les uns après les autres, du plus âgé au plus jeune, qui commencent à partir, accusés par leur conscience. Vous l'avez lu avec moi. Jésus se relève, il ne voit plus personne, il voit juste cette femme, et dit, bah alors ils sont où? Personne t'a accusé? Non Seigneur, personne m'a accusé. J'aimerais m'arrêter juste sur nous un petit peu, qu'on se regarde chacun, qu'on essaie de s'approprier cette expérience, ce récit. Peut-être que vous êtes la femme. Je m'explique. Je ne parle pas de sexe. Je parle la femme dans le sens celui qui a été pris en flagrant délit. Peut-être que vous avez une culpabilité dans votre cœur parce que vous vous êtes fait attraper. Il y a quelque chose d'évident ou un péché évident. Quelque chose qui vous colle à la peau, que vous voudriez qu'il vous quitte. Ça reste là, vous êtes prisonnier cette chose et vous culpabilisez. Et si jamais on vous mettait face à Dieu, d'un coup vous réalisiez que Jésus est présent au milieu de nous par son esprit, une honte viendrait d'un coup, une sorte de culpabilité. Peut-être que vous êtes un peu comme cette femme en flagrant délit. Face à Dieu, vous savez que là, c'est évident. Peut-être que vous êtes comme cet homme qui est venu ce soir pour juger un peu cette salle, cette religion, comme vous l'appelez. Vous êtes venu dire, bon, on va voir ce soir qu'est-ce qu'il dit, puis moi je vais trouver des défauts. Peut-être que quelqu'un, sur le CD, quand il écoutera, il se dira, moi, je vais écouter, mais je vais voir les défauts. Moi, je veux voir cette personne-là. J'aimerais vous dire, déjà, je ne suis pas parfait. Ça, c'est clair. Mais au-delà de ça, regardez ce que Jésus a répondu. Oui, d'accord, mais regarde d'abord à toi-même. Et quand on pointe le doigt vers quelqu'un, il y en a trois qui sont pointés vers nous. Jamais remarqué ? Il y en a un vers les autres et trois vers nous. Et je crois que le Seigneur, il dit, moi, je m'occupe des autres. T'inquiète pas, je veux aussi toucher leur cœur, mais je voudrais parler à ton cœur. Ce soir, maintenant, j'aimerais parler à ton cœur, à toi. C'est un face-à-face avec toi. Ne te justifie pas avec les autres, regarde pas aux autres, regarde à toi. Peut-être que vous étiez venu accuser quelqu'un, le Seigneur vous attrape au tournant et vous dit, je t'aime à toi. Je voudrais te parler à toi, pas à ton voisin, à toi. À toi. Et chacun pour nous, on peut se dire, à moi le Seigneur il veut parler ce soir. Je suis face à lui. Peut-être que vous êtes l'époux qui a trompé sa femme, la personne qui a été avec cette femme. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, vous culpabilisez pour quelque chose, mais personne ne le sait. Un jour, un pasteur nous racontait cette expérience. Une femme dans l'église avait vraiment un fardeau. Elle était triste, tout le temps triste. Il va la voir, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, mon mari est en hôpital psychiatrique. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Il vient d'être interné, il ne parle plus. Il ne mange plus, il est obligé d'être mis sous perfusion, il veut mourir. Dépressif. Il vient d'être interné. Ah bon, je vais aller le voir. Le pasteur a commencé à aller le voir. Pas un mot, rien. Pasteur embêté. Il lui parle, il essaie, il dit, mais comment ça se fait que vous ne répondez pas, etc. Comment ça se fait? Et puis il parle, mais rien, aucune réponse. Alors le pasteur ne sait pas quoi faire, il part. Il dit, bon, ben, peut-être il ne m'entend pas. À cause des médicaments, j'en sais rien. Et puis il commence à prier pour cet homme, à prier pour soigner, à prier. Puis le temps passe, et puis au bout d'un moment, le pasteur dans son cœur, à force qu'il prie, il reçoit la conviction dans son cœur qu'il faut qu'il aille au chevet de cet homme. Et sans rien dire, qu'il se tienne là, et qu'il prie pour lui, à ses côtés. Et que régulièrement il aille. Ça a pris 3 ans. Pendant 3 ans, ce pasteur était à côté de cet homme. Cet homme n'a pas dit un mot pendant 3 ans. Je pourrais vous donner le nom du pasteur. Et le pasteur se venait à côté, régulièrement, toutes les semaines. Il venait et il se mettait. Et il restait 1 heure. Il disait, voilà, je reste 1 heure avec vous, je vais prier. Et il se mettait à prier, tout ça. Puis il parlait de l'église, partager sur l'église, il priait pour l'église, il priait pour divers sujets, mais passait un moment avec le pasteur. Et puis au bout de 3 ans, au bout d'un moment, un jour, alors qu'il priait, cet homme sur sa table, sur son lit, pardon, a commencé à avoir des larmes qui ont coulé de ses yeux. Il était étonné. Il voit les larmes qui coulent, et de plus en plus, puis d'un coup, il se met à sangloter. Étonné. Il se met à sangloter. Et puis le regard, puis le gars, il commence à dire « Pardon, 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 pardon !» Il ne s'arrêtait plus, il pleurait. Et puis il y avait des larmes qui coulaient, des sanglots et tout. « Pardon, pardon !» Et puis au bout d'un moment, le pasteur est... cet homme, il est là, le pasteur, il dit, ça va, tout ça. Et puis il dit, faut que je vous parle. Le pasteur dit, ok, mais je suis là pour ça. Et cet homme commence à lui dire, il y a un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, j'ai rencontré une femme autre que ma femme, plus jeune, à mes yeux plus belle, etc. Et au début, c'était juste une jeune fille à qui je m'étais pris de sympathie. Je sais plus si c'était au travail ou quoi. Mais petit à petit, on a créé des liens. Et puis petit à petit, on s'est rapprochés. Et puis on a eu des rapports. J'ai commencé à tromper ma femme et je faisais semblant, etc. Je trompais ma femme, ça allait très très vite, de plus en plus vite. Et puis, à force de coucher avec elle, elle est tombée enceinte. Cette femme est tombée enceinte, cette jeune fille. Et moi, ne voulant pas être découvert, je l'ai forcée à avorter. Cette femme a avorté et je l'ai poussée, je l'ai convaincue qu'il fallait qu'elle avorte, elle ne voulait pas. Je l'ai fait avorter et puis après j'ai dit on se sépare, tellement je culpabilisais, je dis, on se sépare, on arrête tout ça. Mais je n'ai pas tenu, chaque fois que je voyais ma femme, je voyais mon péché. Je voyais ma misère, je voyais mon meurtre. Puis cet homme rongé par le remords, il a voulu mourir, il était obligé d'être interné. Et il lui a fallu des années. Et puis un jour, il a commencé à confesser, comme ça au pasteur. Le pasteur a continué à aller le voir. Cet homme allait de mieux en mieux. Et puis le pasteur il lui a dit, Écoutez, c'est à vous de voir. Moi, je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas vous forcer à en parler, je ne sais même pas. Écoutez, moi, je suis dépassé. Ce qu'on va faire, on va prier pour qu'un jour, où vous le sentez, vous puissiez partager ça avec votre femme, lui expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Et puis, petit à petit, les mois ont passé et un jour, il a pu le dire à sa femme. Sa femme lui a pardonné parce qu'elle connaissait l'amour de Dieu. Et ils sont repartis ensemble. Et aujourd'hui, ils sont dans une assemblée. Heureux. Et peut-être que quelqu'un est là à autre chose que l'adultère. Au moins grave. Mais dans son cœur, il y a un poids, culpabilité, parce qu'il n'a pas été attrapé. Personne ne le sait. C'est un secret. Mais Jésus le sait, mais il ne veut pas t'écraser. Lui, il ne veut pas t'écraser. Mon ami, ce soir, si dans ton cœur, tu te compares à cet homme, si tu te vois, ne culpabilise pas. Arrête de te laisser écraser. Regarde ce qu'il a dit à cette femme. Il lui a dit, je ne l'ai pas lu exprès. La fin, c'est, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Le seul qui aurait pu jeter la pierre, il ne l'a pas fait. Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est tout. Je te donne mon pardon. Et cette femme, moi, ce qui m'a plu, ce pourquoi elle a eu le pardon, c'est parce que même quand les autres, les témoins ont disparu, elle n'a dit qu'une parole. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Non, Seigneur. On ne sait que ça d'elle. Non, Seigneur. Personne t'a accusé ? Non, Seigneur. Elle aurait pu dire, non, Seigneur, mais tu sais, c'était un mensonge, hein, ce qu'ils ont dit. Elle aurait pu dire, oui, mais tu sais, bon, ils m'ont vu, mais tu sais pas comment il m'a tenté, le gars. Ça fait 10 mois qu'il me court après, celui-là. Et etc. Et etc. Cet homme, il a été pris aussi en flagrant délit. Mais lui, on n'en parle pas. Je ne sais pas s'il a été lapidé. Je ne sais pas s'il n'a rien eu. Je ne sais pas s'il est passé à l'écart. En tout cas, lui, il n'est pas venu devant tout le monde. C'est resté secret. On ne sait même pas qui c'est. Cette femme, elle a eu la honte. Peu importe. Je crois que les 3 catégories de personnes ont besoin de pardon. Cette femme qui a été prise en flagrant délit, cet homme dont on ne sait rien, mais aussi ces hommes qui ont été accusés dans leur conscience. Et quel que soit ton état ce soir, tu as besoin de pardon. La Bible est claire, elle dit qu'on est tous pécheurs, 100%. Gros petit péché, ce n'est pas important. On est tous salis devant Dieu. Et Dieu est pur, sans tache. Et il veut te donner sa pureté. Il veut te donner sa sainteté. Lave ton cœur de tout péché. Et pour faire ça, Jésus a dû s'abaisser, marquer la terre, être élevé, se rabaisser, et puis être élevé pour définitivement. Vous avez vu comment ça s'est passé? Jésus s'est abaissé, il a écrit par terre, Jésus s'est relevé, il a mis chacun en face de sa responsabilité, il s'est rabaissé, il a écrit, et puis après il s'est relevé une dernière fois. Et ça me parle du parcours de Jésus. Jésus est descendu du ciel sur la terre, il a marqué la terre, Jésus a été élevé sur le bois de la croix, il a payé nos péchés, et c'est bien la preuve qu'on est tous pécheurs, Jésus a dû payer pour nous. Puis il est redescendu jusque dans les profondeurs des ténèbres, dans le séjour des morts, mais il est ressuscité et aujourd'hui il est encore vivant. Il est monté au ciel et il prie pour ceux qui croient. Il intercède en faveur des siens. Jésus prie pour que des hommes, des femmes s'approchent de lui, pour que ses enfants soient gardés, protégés, bénis, guéris, tout ce que vous voulez, et il prie parce qu'il est ressuscité. Il est descendu du ciel, il est monté sur la croix, il est dit qu'il a été élevé. Il est monté sur la croix, il est redescendu, il est allé dans un tombeau, dans le séjour des morts, mais il est ressuscité, il est monté au ciel. Et aujourd'hui, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui se tournent vers lui, tous ceux qui croient que Jésus a payé pour pardonner, que Jésus, le Fils de Dieu, a dit « Je ne te condamne pas, crois et ne pêche plus, surtout, va et ne pêche plus », tout cela qui emboîte le pas. « Ah bon, tu me pardonnes ? Tu me condamnes pas ? T'as payé pour moi, Jésus ? Toi qui étais innocent, t'as payé pour moi ? Alors, oui, que dois-je faire ? Va, ne pêche plus. » D'accord. Oh, imaginez cette femme. Vous la voyez, cette femme ? On voyage toujours, là ? Imaginez cette femme. Comment elle est repartie ? Bon, elle a dû partir vite, parce qu'il y avait une foule, quand même, quand tout ça est arrivé. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle a dû se jeter à genoux. Oh, dire, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Oh, je l'ai échappé belle, j'aurais pu être lapidé, tué, j'en sais rien. Est-ce que c'est elle qui était mariée? Après tout. Est-ce que c'est lui qui était marié? J'en sais rien. En tout cas, elle avait le pardon de Dieu. Elle avait le pardon. Et devant tous, puisque les pharisiens sont partis, mais juste après, il nous est dit qu'il a recommencé à enseigner ceux qui étaient là. C'est qu'il y en avait d'autres qui étaient restés. Tout ça, ça s'est passé devant des témoins. Ceux qui sont partis, ce n'est pas toute la foule qui l'enseignait juste avant. C'est ceux qui l'accusaient. Et puis il a repris son enseignement comme si de rien n'était. Devant tous, il a dit, cette femme, elle est pardonnée. C'était un maître, Jésus, à l'époque. Il avait des disciples. Il parlait avec autorité, avec l'onction de Dieu. Quand il parlait, ça s'accomplissait. Quand il disait « Sois guéri », la personne était guérie. Quand un aveugle, il lui disait « Vois », la personne voyait. Quand un paralytique, il lui disait « Lève-toi et marche », la personne se levait et marchait. Et là, devant tous, alors qu'on sait que sa parole a du poids devant Dieu, il dit « Moi, je te condamne pas, va et ne pêche plus ». Cette femme, devant tous, elle est justifiée, pardonnée de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise, Jésus dise sur ta vie ? Pardonnée ? Affranchie ? La dette du péché acquittée? Ou est-ce que tu dis, moi, Jésus, non, pas besoin, je m'en sors tout seul, je m'expliquerai devant lui. Ou est-ce que tu te dis, moi, je n'ai pas besoin, j'ai ma religion. Ils sont venus avec leur religion, qui disait, la loi dit que. Vous avez vu? Il dit, oui, ta religion, elle est bien, mais regarde-toi. Regarde-toi. Face à Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Le seul qui pouvait payer, le seul qui peut effacer ton péché, c'est Jésus-Christ. Amen. On incline nos fronts. S'il vous plaît, cette femme ne s'est pas justifiée. Cette femme n'a pas essayé d'expliquer son péché. Elle n'a rien dit. Elle a accepté devant tout le monde, elle n'avait peut-être pas le choix, mais elle a reconnu son état tout simplement devant Jésus. Elle est restée là, elle a attendu. Et Jésus a pu lui dire, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Elle aurait pas pu partir en se disant « Oh, mais je suis toujours pas pardonné, je suis toujours pas pardonné. » Mais je crois qu'elle est partie en croyant dans la parole de Jésus. C'était pas n'importe qui lui disait. Et ce soir, c'est pas n'importe qui veut nous parler. Le Seigneur nous parle dans la Bible, par sa parole. Et il te dit « Je ne veux pas te condamner. Je ne veux pas te condamner, je veux te sauver. Crois en moi, crois en ma parole. J'ai payé sur le bois de la croix, j'ai versé mon sang, j'ai donné ma vie pour que ta vie soit sauvée. Alors accepte, crois, et maintenant va, et ne pêche plus, lis ma parole pour savoir comment je veux que tu vives, pourquoi je t'ai créé, et tu seras heureux. Tu veux de l'amour, je vais t'en donner, tu veux de la joie, je vais t'en donner, tu veux de la paix, je vais t'en donner, viens à moi si tu as soif. Va pas chercher à te justifier avec des efforts, avec des pèlerinages, avec de l'argent. Crois en moi, mon sang a plus de valeur que tout l'argent du monde, dit Jésus. Son sang est précieux, et il veut laver tes péchés. Amen. Seigneur, tu connais nos cœurs à chacun. Qu'on vienne dans ce lieu depuis des années ou qu'on soit tout nouveau, que ce soir on repart tous avec l'assurance que tu as payé pour nos péchés et qu'on est au clair à faire régler quant au péché avec toi et qu'on va au ciel. Avec un but dans notre vie, c'est de t'honorer et d'être devant toi pour recevoir ta joie, ta paix, ton amour et toutes ces choses que tu donnes. Merci parce que tu nous respectes, tu nous donnes le libre arbitre, mais que ce ne soit pas une occasion de chute ou de passer à côté de ta grâce. Qu'au contraire, ce soit un acte volontaire de croire en toi et de se saisir aujourd'hui du pardon de nos péchés. Merci de voir les cœurs, de sonder les cœurs et de bénir celui qui honnêtement va s'approcher de toi ou s'approche déjà de toi. Que cette bonne nouvelle dépasse mes simples mots, mes simples capacités, mais qu'elle pénètre dans les cœurs et qu'elle accorde à chacun l'assurance que c'est toi qui parles et pas Jérémie. Merci Seigneur. Amen.